À contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici ensemble ce mardi pour une heure d'antenne. Bonjour Lia.
Bonjour Catherine.
Voilà, je pense que cette journée va être particulière, mais c'est toujours pareil, hein, on est d'accord. On va essayer de surprendre un peu nos auditeurs et nos auditrices et nos auditeurs. Par rapport à ça, je trouve que ce qui est important, c'est d'expliquer que le burn-out est quand même, enfin l'épuisement, puisqu'on a décidé d'employer ce mot, est quand même un phénomène mondial.
Ben oui, tout à fait.
Mondial. Mmh. Mais justement, avec cette question, on va faire un tour du monde aujourd'hui du burn-out, de l'épuisement.
Ah oui. Ok.
On va faire un tour du monde. Avant, je tiens à préciser que Ralentir pour vivre, l'association Ralentir pour vivre, qui fait de l'information et de la sensibilisation, se trouvera à la fac de droit ce vendredi à 19h30 pour la fresque du burn-out.
Oui.
À quoi vous attendre alors? D'abord, nous allons faire un assemblage du mécanisme du stress qui va être fait à partir d'un film de l'INRS, d'une animation de l'INRS. Ensuite, nous allons faire un assemblage de fresques des symptômes et ensuite un assemblage d'une fresque du déni, qui est un problème essentiel dans l'épuisement. Voilà. Ensuite, nous aurons une fresque un peu particulière qui sera le retour des personnes qui seront présentes, qui pourront dire ce qu'elles pensent dans l'intervention, et nous construirons une fresque à partir des débats qui vont suivre cette présentation. Voilà pour ce vendredi à 19h30. D'autre part, vous pouvez réagir sur les réseaux.
Ben, Radio Gemozo, Ralentir pour vivre, voilà. Ou Gemozo, voilà, on vous attend.
Ralentir pour vivre, ABO, on me demande toujours pourquoi ABO, anti-burnout.
Voilà.
Voilà.
Merci Catherine.
Et puis, vous pourriez même nous appeler par téléphone.
Ben, bien sûr, 03 29 62 40 40.
Où on serait ravis de vous entendre,
oui.
Bien qu'anonymement.
Tout à fait.
Voilà, pour dire quelque chose. On m'a fait des réflexions dernièrement que je prends grandement en considération. Que le burn-out est un fourre-tout, une boîte à Pandore, je suis assez d'accord, parce qu'il n'est pas réellement bien défini. Et de ce fait, il y a une confusion qui se fait et il est mis sous ce diagnostic un peu tout et n'importe quoi. D'où l'importance de notre intervention vendredi,
oui.
Qui pourra expliquer quand même la base, parce que notre intervention est très simple. Nous expliquons les choses très simplement, d'abord avec une animation de l'INRS, ensuite avec les symptômes qui sont faits par la docteure Koéfik, psychiatre au sein de l'association, et le déni. Donc on part de points simples qui peuvent expliquer de manière claire ce qu'est ce phénomène. Alors maintenant, faisons le tour du monde.
Tu commences par où?
Ben, je sais pas, t'as envie de faire le tour du monde?
Ben, bien sûr, avec toi, toujours.
Ah. Oh, mais que c'est beau, mais que c'est gentil. Voilà, eh bien, on va commencer par un pays qui est très lointain, par le Japon.
Ah oui?
Ah oui. C'est un précurseur par excellence.
Hein. Ah oui?
Ah oui. Le phénomène touche les Japonais depuis les années 70.
Ah, purée. Okay.
Le premier cas a été revu en 1969. C'est quand l'addiction au travail tue. Et ça s'appelle, je vais vous dire un beau mot japonais, le karoshi.
Ok.
Le karoshi, qui, dans le texte, veut dire mort par excès de travail.
Wow. Ah oui, c'est fort quand même.
Ah, ils sont forts. Mm. Ils sont très forts, ces Japonais.
Ben, en Asie, en général, ils sont quand même. Il y a un gros, gros rythme. Hein.
Oui. Et puis au Japon, ils sont très costauds sur la question.
C'est, ouais. Okay.
C'est bien au taquet, là.
Okay. Hein,
c'est vraiment. Donc, c'est une mort brutale liée au surmenage qui souvent intervient au Japon avec un arrêt cardiaque.
Ouais. Et tu ne disais pas que c'était souvent des jeunes?
Oui,
ouais.
Très jeunes. Et ça, c'est le premier cas. Elle avait 20 et quelques années.
Ah,
donc, c'était quand même des gens voilà, très jeunes. Alors, le burn-out au Japon ne pardonne guère et souvent, il est fatal. Par contre, ce pays a trouvé des solutions pour mettre en place des façons de lutter contre ce fléau. Il touche toutes les catégories de travailleurs hein, au Japon. Ce n'est pas même réservé à l'élite, non, au contraire. Ça touche plutôt le bas de la pyramide. C'est extrêmement important de voir la naissance de ce phénomène a été dans ce pays quand même. Et donc, selon les estimations, 1000 voire 10 000 personnes par an, de 1000 à 10 000 parce que c'est mal répertorié. Donc, okay. Je suis d'accord que la fourchette est la plus grosse. C'est plus une fourchette, c'est une spatule.
Ah, pas là.
Oui, carrément. Là, de 1000 à 10 000 personnes par an seraient touchées par le karoshi. Et 20% des entreprises déclarent qu'une partie de leurs employés effectue régulièrement plus de 80 heures supplémentaires par mois.
Oh my God.
Quand on sait qu'ils font en moyenne de 40 à 49 heures par semaine.
Dieu. D'accord, ok.
Donc, vraiment, c'est les premiers sur la liste. Donc, 1 sur 5 travaille plus de 49 heures par semaine. On va peut-être juste voir la différence qu'il y a avec d'autres pays. Donc, il y a 20% qui font plus de 49 heures par semaine au Japon. Et aux États-Unis, il y a 16,4%. En Grande-Bretagne, 12,5%. Et en France, 10,4%.
D'accord.
Donc, c'est vrai que là, on se trouve devant quelque chose d'assez, je dirais, important. Et on va écouter une petite audio à ce sujet.
Tu sais quel jour on est ? Lundi des followers. Et une abonnée nous a envoyé un article sur les habitudes de travail des Japonais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vend pas du rêve. Easy. Le Japon fascine beaucoup de gens, que ce soit la culture, les mangas, la gastronomie. Ouais, ouais, mais après cette vidéo, je sais pas si t'auras envie d'y travailler. Alors, on le sait, les Japonais sont très différents de nous. Et ils ont aussi la réputation d'être plus travailleurs que nous, et c'est pas qu'une réputation. On connaît ici les problèmes de burn-out, surmenage, workaholisme... Mais eux, c'est un autre level, en fait. Le karoshi, tu connais ? C'est le mot qui s'utilise pour dire mourir de surmenage. Et c'est un réel problème de société. 191 personnes sont mortes en 2017 à cause de l'excès de travail, entre AVC, crise cardiaque et suicide. T'avais notamment eu le cas de cette journaliste qui est morte en 2013 d'un arrêt cardiaque à 31 ans, après avoir enchaîné 159 heures d'heures supplémentaires en un mois. Et j'ai pas dit en tout, hein. Ça, c'est en plus de son horaire normal de 40 heures par semaine. Donc si tu calcules, ça fait beaucoup. Et là, tu te fais, mais pourquoi ? En fait, c'est ancré dans la culture qu'il faut que tu la joues collectif. Tu peux pas dire « demain, je me barre en week-end, démerdez-vous ». Non, c'est mort. Il faut que tu montres que tu mouilles le maillot pour l'équipe. Et donc, vous vous regardez en mode qui fera le plus d'heures, qui dormira le moins, qui va le plus se dédier à l'entreprise. Donc du coup, tu restes plus longtemps et tu prends pas tes congés. Un autre problème que ça engendre, c'est que les femmes ne sont pas correctement intégrées dans le monde du travail. Et tu m'étonnes, comment tu veux combiner une vie de famille avec 12 ou 14 heures de travail par jour ? C'est compliqué d'avoir deux parents qui travaillent et d'élever des enfants. Et je dirais même plus, c'est compliqué de faire des enfants. Le Japon a l'un des taux de natalité les plus bas du monde. Et l'année dernière, ils se sont carrément surpassés. Ils ont enregistré un taux de renouvellement naturel de la population de 1,44, alors que le taux normal est de 2,08. Bon, les Belges, restons humbles, parce que nous, on était à 1,7, donc c'est pas non plus la folie chez nous. Comme je te le disais, le Japon est une société assez sexiste, avec les mères qui sont à la maison et qui s'occupent des enfants, et les pères qui travaillent. Et t'as plutôt intérêt à te conformer. Il y a un an, t'as un employé de chez ASICS qui a collé un procès à l'entreprise parce qu'ils l'ont harcelé moralement, en le mettant au placard et en lui collant des tâches inutiles. Et pourquoi ? Parce que le malheureux a eu l'audace de demander un congé paternité. Et outrage encore plus grand, il en a pris un deuxième pour son second enfant. Bah en fait, c'est plutôt le contraire. Du coup, t'en as qui travaillent moins vite pour grappiller plus d'heures. Donc là, t'as des employés qui sont moins productifs et qui sont au bord de l'implosion. Et le fait que tu exclues plus ou moins les femmes du marché du travail, soit la moitié de la population, tu te prives quand même d'une main-d'œuvre fort utile. Surtout dans une population vieillissante qui coûte extrêmement cher en termes de retraite et de soins de santé. Donc ouais, c'est pas le meilleur calcul. Face à cette situation très compliquée, tu as plusieurs manières de gérer ça. T'en as qui se barricadent chez eux pendant des années et on les appelle les hikikomori. En fait, ils ont juste plus la force d'affronter la pression. C'est une manière de faire un peu extrême quand même. Et d'autres... trouvent d'autres moyens d'évacuer la pression. Et toi, quelle place a le travail dans ta vie ? Est-ce que tu pourrais travailler comme le japonais ? Mets-le moi en commentaire et on se retrouve pour un prochain Easy.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, Lia, j'ai vu ta façon de prendre ces informations. Surprise !
Bah oui, c'est un peu déroutant quand même.
C'est déroutant, c'est même violent. Oui. Parce que le terme signifie littéralement mort par dépassement du travail.
Bah, c'est horrible.
Mais c'est horrible. Mais c'est quand même... Alors, je note quand même quelque chose qui est important, là, par rapport au fait qu'on parle d'un phénomène mondial. C'est quand même dans la culture.
Oui, tout à fait.
Donc, en fait, l'épuisement prendrait sa racine dans la culture.
C'est une bonne piste.
C'est une bonne piste, hein. Et donc, il a été introduit en 1982 par 3 médecins japonais qui ont observé une augmentation des pathologies cardiovasculaires chez des travailleurs accumulant des semaines interminables.
Oh là là.
Donc là, j'aime bien le cas des Japonais avec le karoshi, parce que pour eux, ça fait partie de la culture. Ils l'ont bien dit, tu ne vas pas dire, celui qui a eu son congé paternité, là, il a été rayé de la carte, mis à la cave. Ça ne se fait pas. C'est exactement comme si on va en plein centre-ville et qu'on se fout à poil. En gros, c'est ça.
Puis l'aspect collectif aussi, où voilà, on ne va pas prendre de vacances parce qu'on ne va pas laisser les autres gérer les choses à notre place ou gérer les choses tout seul. Bon, c'est le contraire de l'individualisme, mais du coup, ça ne porte pas ses fruits, quoi.
Non, c'est même dangereux. Certaines entreprises essayent de forcer leurs employés à quitter le bureau. Non, mais vous m'avez bien entendu. D'accord.
Okay.
Extinction des lumières à une certaine heure, coupure de l'accès Internet. Mais c'est vraiment là, on est dans l'addiction au travail. Hein. Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Les employés apportent des lampes et des routeurs Wi-Fi personnels.
Donc ça veut dire que ça ne vient pas des entreprises, mais des employés eux-mêmes.
De
hein.
la culture. Okay, ouais. C'est-à-dire un phénomène de société. Et là, on est en plein dans le sujet. Parce que quand on dit que l'individu qui est victime d'un burn-out se sent coupable, c'est quand même en arrière-fond l'image que la société fait de l'individu.
Oui, tout à fait.
Si on reporte dans les années 60, 70, 80, quand j'étais jeune, hein, on va dire ça comme ça, voilà. Eh bien, remplir son agenda faisait preuve d'être quelqu'un d'important. De nouveau, culture de société. Donc la société induit... Vous êtes important parce que vous en faites beaucoup. D'accord ? C'est, en plus, c'est ce qui est arrivé dans l'entreprise Like Engineering. Après 6 mois de contraintes, rien n'avait changé. Donc, éteindre le Wi-Fi, éteindre les lumières. Ils apportaient leurs lampes, ils prenaient leur Wi-Fi. Bon. Jinwiki Kimura, le gestionnaire, a donc remplacé les heures supplémentaires par des bonus et a demandé à ses employés d'effectuer les tâches dans un laps de temps plus court. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, ils sont un peu perdus devant le phénomène.
Si ils ont besoin de plus de temps pour faire les choses qu'ils doivent faire et qu'on leur dit il faut faire la même chose, mais plus rapidement, c'est compliqué quand même.
Oui, c'est compliqué. Je ne sais pas si,
un peu,
si même
un peu
les managers même. Sont bien droits dans leurs bottes, là. Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'ils sont touchés eux-mêmes?
Ah bah, c'est toujours la même question.
Ah voilà. Le gouvernement a adopté une réforme autorisant les entreprises à ne plus payer les heures supplémentaires des salariés gagnant plus de 80 000 euros par an. Donc si un salarié gagne plus de 80 000 euros par an, l'entreprise a le droit de ne plus lui payer ses heures supplémentaires.
Je ne sais pas comment on doit le prendre.
Non, moi non plus. J'avoue que j'ai découvert ça en me disant « Ouh là là, il y a vraiment des différences de culture.
Hein. » Alors, après, peut-être que s'ils ne sont pas payés, ils n'ont plus envie de travailler, mais bon.
Ouais.
Si c'est plus inscrit que ça, pas sûr que ce soit vraiment le...
Enfin, il s'agit d'encourager les entreprises à évaluer leurs employés sur les résultats fournis et non plus sur le nombre d'heures passées au bureau. Là, il y a une pression. C'est très ambigu parce que la pression, elle reste là.
La pression du résultat, mais...
De l'évaluation,
aussi
bien.
Ouais,
c'est le truc qui tue, ça. Donc, il a également été question de légiférer pour obliger les salariés à prendre 5 jours de congé par an, en plus des 15 jours fériés annuels dont se contente la quasi-majorité des travailleurs japonais.
Ah ouais, 20 jours de congé dans l'année.
Voilà. Non, mais là, ce que je voulais mettre le doigt dessus, c'est... La culture de la société, c'est-à-dire la société qui induit. On parle sans arrêt, ralentir pour vivre, c'est un phénomène de société. Tout le monde nous regarde d'un air de dire, cause toujours mon lapin, tu m'instructionnises. Hein, en gros, voilà. Mais là, je pense qu'on met vraiment le doigt dessus. En effet, même si les Japonais bénéficient de 20 jours de congés par an, mais c'est pas fini, Lia. Ils sont peu nombreux à les prendre.
Oh là là.
Non, mais tu vois. De laisser les collègues travailler, peur de perdre son travail, peur du regard des autres.
Oui, ben on est en plein dedans, quoi.
Non, mais Là, j'ai vraiment été intéressée par ce que j'ai trouvé. Parce que nous, en France, ici, on a tendance à dire « Ouais, mais le français est un glandeux, il fout rien, bon, c'est pas bien grave, qu'est-ce qu'il nous raconte, burn-out, épuisement, de quoi il cause ?» Voilà. Non, non, c'est un phénomène de société.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Voilà. Et d'après Kawahito Hiroshi, excusez-moi, mon accent japonais n'est pas formidable, avocat spécialisé du Karoshi, il est primordial que les chefs d'entreprise se libèrent du mythe des longues heures de travail et s'inspirent de l'expérience des pays européens. Donc nous serions modèle.
D'accord.
Bon, là, on va voir, hein, parce qu'on va faire le tour du monde. Donc on va voir en quoi on est vraiment un modèle.
Là, ils ont un niveau quand même assez haut, quoi.
Oui. Hein? Il est également essentiel que les citoyens japonais s'emparent du sujet et s'expriment afin de faire respecter les droits humains des travailleurs. Il estime que la prévention des décès liés au surmenage passe par la prise de conscience du problème par l'ensemble des Japonais. Discuter de ce sujet le plus activement possible est indispensable. Mais on en revient toujours à ce que je raconte. Blablabla, je répète toujours la même chose. Ça fait 2 ans que vous entendez la même rengaine. Non, mais on va pas se mentir. Hein. Je veux pas me mettre... Je répète. Il faut en parler parce qu'en parler commence déjà à mettre le sujet sur la table.
Oui, mais là, il faut déconstruire tout un effet de tradition, de société, de pensée profonde, plus que profonde, totalement inconsciente, même parfois, je suppose, ça va être long pour eux.
Oui, et puis pour nous aussi. Parce qu'on a quand même une admiration pour les Japonais qui, quelquefois, me surprend.
Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le Japon !» le Japon !» Bon, je ne veux pas dire ce qu'ils disent parce que je ne me souviens plus, mais « Ah, le Japon !»
Mais moi, je les voyais plutôt zen, moi. C'est bizarre, je n'avais pas ce recul, cette approche. Je les voyais en train de faire du tai chi, de la méditation, tout ça dans des... Voilà, je ne sais pas. Je les voyais plus « safe ».
Oui,
alors, après, on voit bien que c'est vraiment de gros travailleurs, etc. Mais je pensais qu'ils s'aménageaient un temps. Mais apparemment, non.
Apparemment, non, parce que les années 70, on calcule, ça fait 54 ans que le phénomène est une plaie pour eux.
Ah oui.
54 ans. Donc, comme quoi, il est indispensable d'en parler pour que ça ne s'ancre pas. Et là, je parlerai de racines. Quand tu as des mauvaises herbes, comme je ne sais pas si tu connais, mais le rumex, qui est dans les champs dont tu ne connais pas.
Non, je ne connais pas.
C'est un truc qui fait plein de graines et qui en fait des milliers, ou les chardons, on va dire ça comme ça. Eh bien, si tu n'enlèves pas la racine, à un moment donné, il repousse sans arrêt. Et il repousse encore amplifié. D'accord ? Donc, c'est bien une question de culture, de société, et d'aller jusqu'à la racine du problème. Pour quelle raison est-on autant accro au travail? Ah, ça, c'est une grande question. C'est une très grande question.
Pour trouver son importance, peut-être, comme tu l'as dit.
Oui, pour trouver son importance.
Enfin, je ne sais pas. On peut réfléchir. Hein.
Vas-y, je t'écoute.
Pour trouver sa place, je pense peut-être aussi à une question d'ego, une question de reconnaissance. Voilà, peut-être qu'on ne pense pas que vivre simplement une vie simple, en introspection, avec nous-mêmes et simplement ce que l'on est, suffirait.
Oui, maintenant, j'aime bien ce que tu dis et je vais faire l'avocat du diable. Pour quelles raisons nous ne pourrions pas trouver ces ressources dans d'autres activités que le travail?
Pain. Gain.
Game. Alors,
l'argent, le nerf de la guerre.
Voilà, je traduis le pouce qui se frotte avec les deux doigts de l'IA. Oui,
mais
game.
Bien sûr.
Oui, mais
l'argent,
bon.
J'avais oublié celui-là.
Alors là, je vais plus loin dans la racine. Game. En France, franchement, tu peux travailler ce que tu veux. Pour dépasser le SMIC, t'as intérêt à ramer. Hein. Non, mais sérieux.
C'est ça. C'est pour ça que moi, ça ne m'est pas venu tout de suite parce que je me dis... ceux qui sont en épuisement ici en France, c'est pas forcément lié à l'appât du gain, quoi. Il y en a beaucoup.
Non, j'aime bien quand tu dis ici en France. Oui, non, c'est pas automatiquement lié à ça, effectivement, parce que l'appât du gain en France, il faudrait déjà vraiment se donner de la peine.
Il y en a certainement, mais je pense que c'est pas pour tout le monde.
Ou alors la peur de perdre son emploi.
Ah bah ça, j'imagine que ça existe aussi, ouais. Mais on a quand même beaucoup évoqué cette histoire de travail passion, de surinvestissement, de l'espèce de d'hormone de satisfaction qui se dégage de son cerveau quand on est sur plein de challenges en même temps, parce que hop, ça nous dope et puis d'un coup on est reparti. Et peut-être qu'il y a une petite addiction à la dopamine.
Oui, il y a une petite addiction et je pense que en dehors de l'addiction, le travail est peut-être une façon de rester debout dans un monde qui s'écroule.
Oui, c'est une question de positionnement, mais il y a une chanson qui vient de me popper dans la tête à l'instant où tu parlais. Le travail, c'est la santé.
Rien faire, c'est la conserver.
Donc déjà, ça commence mal.
Non, mais pour dire... Et Henri Salvador, il y a bien 50 ans qu'il l'a chanté. On est bien d'accord.
Eh ben, comme quoi.
Comme voilà. Quoi. Il l'avait compris, lui. Faisons une petite pause musicale.
Casse l'ambiance en soirée. La terreur avec qui on peut même plus rigoler. L'hystérique qui pouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher. Je suis la menace qui fait la une de valeur. La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fachosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais peur? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcolé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doute de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Bah quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Oh, 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 oh. Avec plaisir je serai une martyre de la cause. Oh, 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 oh. Avec honneur je serai une martyre de la cause. Oh, 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 oh. Avec fierté je serai une martyre de la cause. Qui censure la culture. La matriarche extrémiste ravage en l'écriture. La délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures. Je suis la gynocrate assoiffée de vengeance. Présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence. Bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, donc nous sommes allés à l'autre bout du monde et nous revenons en Europe. En Europe, où plus de 3 millions des Français sont affectés par une forme plus ou moins grave de souffrance psychique au travail, selon une étude réalisée par Statista, parue le 5 novembre 2024. L'exposition au burn-out concerne de nombreux salariés en Europe. On en avait déjà parlé. Si on prend l'Europe, on prend différents pays. Quel est le pays le plus touché en Europe? Alors, je vais tout de suite planter le décor. C'est un pays de l'Est qui, à mon sens, mais c'est une façon de voir, hein, ça n'engage que moi, se met dans la course du consumérisme et de ce fait est d'autant plus sous pression. Et là, on parle des Polonais. 70% de la population française, de la population polonaise, veuillez m'excuser, est sous pression. Donc, ils sont vraiment... ils sont sortis d'un stress entre les guerres, les... Bon, bref, beaucoup de choses. Et ils sont rentrés dans le monde actif, capitaliste, et ça leur a fait une pression terrifiante. Après, on a les Roumains. Ben oui, les Roumains aussi, voilà, 67%. Après, on a la Tchécoslovaquie, 62%, et on tombe en Italie. Alors là, pareil, hein, Lia. Tiens, l'italien.
C'est ce que j'allais dire, la Dolce Vita.
Ah, tu vois.
Tranquille.
Tu vois. Là, il y a. Quand je parle d'un phénomène de société, ça veut dire que ça balaye toutes les cultures ancestrales pour mettre une espèce de culture du travail sur la table. Donc, 60% des Italiens.
Ah
oui. Oui. Okay. Donc, voilà. Après, on a les Anglais. Alors, les Anglais, moi, je voyais que pofti, tu vois.
Ah, je les voyais plus rigides quand même, les Anglais. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, mais ouais. Bon, mais de la pression sur un Anglais. Moi, j'ai travaillé avec des Anglais. Ouais, c'est plutôt compliqué, hein, parce que du moment qu'ils ont une binge, une petite bière, et puis, puis tout va bien, hein, voilà. Non, ben non. 60% des Anglais sont concernés. Après, tu as les Belges. Alors, pareil, les Belges, on se dit, mais bon, ils sont 59%.
Eh oui.
Après, arrive un pays qui est la Suisse.
Eh ouais.
Et là, on va s'arrêter un instant sur ce pays.
Surtout, tu le connais bien, toi.
Oui, bah oui, j'ai vécu 40 ans là-bas, donc je sais de quoi je parle.
Ouais.
Alors, la Suisse est déclarée comme un des pays du burn-out par excellence, de l'épuisement par excellence. On va écouter un tout petit extrait. Qui dit bien ce que ça veut dire.
Tu vois, tu as le droit de respirer et puis d'être tranquille et de vivre. Tu vois, en Suisse, je pense qu'un Suisse, tu lui dis, tu vas au chômage, il n'est pas bien.
Il n'est pas bien.
Il n'est pas bien.
Ah, sache ça, il n'est pas bien.
Il est en PLS total.
Ouais, totalement.
Et il n'y va pas, tu vois.
Non, genre, il préfère ne pas aller.
Ouais, je préfère faire un burn-out, tirer jusqu'au bout. Et puis, non, parce que la société, elle te met vraiment. La première question qu'on te demande en Suisse, c'est qu'est-ce que tu fais.
Ah, c'est vrai, putain. C'est terrible.
Bah, pour te mettre dans une petite case. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas rien faire. Et moi, je pense que le plus difficile d'entreprendre, quand bah, justement, bah, t'as un beau master, t'avais les beaux jobs et tout, c'est de revenir à un stade où tu sais pas ce que tu fais.
Ouais.
Tu sais pas quoi leur dire, en fait. C'est un peu là.
Bah ouais.
Je découvre.
Je découvre. J'ai pas fait grand-chose.
17% de la population suisse et 25% des Suisses romands ont déjà subi un burn-out. C'est ce que montre un nouveau volet de notre sondage SSR « Comment ça va la Suisse ?» publié aujourd'hui. Mais l'épuisement professionnel n'est pas une maladie reconnue. Nadia Drault, psychologue du travail, préfère donc parler de stress en entreprise, qui reste important.
Là où on retrouve clairement des concordances à l'intérieur de la Suisse, c'est si on compare ces chiffres au Job Stress Index, qui est fait par Promotion Santé Suisse tous les deux ans, qui nous montre, par exemple, en 2022, on avait à peu près 30% des gens qui disaient avoir plus de facteurs de stress que de facteurs de ressources. Alors, il y a 30% qui sont vraiment dans une zone rouge et il y a 45% de la population active qui indiquait être sur un équilibre délicat, disons, ou précaire, entre le nombre de facteurs de ressources et le nombre de facteurs de stress. Ça nous montre qu'on est face à un problème de santé publique en lien avec cette question du stress qui est énorme. Donc quelque part, on a d'autres manières de confirmer que la souffrance des personnes actives en Suisse est présente.
Nadia Drault avec Virginie Langeroc, plus de 57 000 personnes ont participé à cette vaste enquête réalisée ce printemps.
Voilà, chères auditrices et auditeurs. Alors, comme tu disais, Lia, effectivement, je sais de quoi je parle. Puisqu'il y a 20 ans, j'ai été victime d'un burn-out en Suisse.
Bah oui.
Voilà. Et donc, bon, dans une holding américaine.
Parce, ah oui, ok.
Oui, non, parce qu'il y a beaucoup là-bas, justement, de pression quant au, entre Zurich et Genève, dans des entreprises, ou Lausanne, dans des entreprises qui sont extrêmement mondialisées, on va dire comme ça, et en même temps qui sont très stressantes. Mmh. En effet, alors, il parle du burn-out qui entraîne beaucoup de souffrance pour les personnes concernées, ainsi que des coûts pour l'économie. Donc, Suisse Info explique que selon l'étude, ces derniers s'élèvent à environ 6,5 milliards de francs par an, le coût.
Oh, ok.
Voilà. Donc, c'est une évolution qui coûte très cher. Et donc, on dépend de, je dirais, d'une pression et on est comme au Japon parce que la réputation, c'est que le Suisse est un bosseur.
Oui, ça, c'est vrai.
Hein ?
Ouais.
Tu vois, c'est quand même... allez, il travaille beaucoup, hein, le Suisse. Hein, toutes les heures qui passent sont très difficiles. Il ne faut pas exagérer, il faut travailler. Sinon, on est un Français... Un Français glandeur,
oui.
En gros.
Eh bien oui.
Ah, oui. Donc, la Suisse est extrêmement touchée. Et donc, c'est l'exposition de risque la plus importante qui existe en Suisse, c'est l'exposition au stress au travail.
Ah, d'accord.
Et qui n'est pas reconnue, comme partout ailleurs, donc, effectivement. Et c'est, on va dire, sous-jacent, c'est souffrance au travail, comme en France. On peut seulement dire souffrance au travail. C'est un résultat d'une étude de l'OMS qui dit, d'ailleurs, et ça je tiens à le dire au passage, un stress intense qui n'a pas su être géré. Alors, ils ont oublié de marquer par qui ?
Oui.
Oui, parce que ça peut être l'entreprise. Personnellement, on faisait entre 40 et 50 heures en moyenne d'heures par semaine. Donc, c'était dans notre contrat, minimum 40 heures, jusqu'à 48 heures, on ne pouvait rien faire comme, dire comme heures supplémentaires, d'accord ? Et en moyenne, on faisait à peu près, je dirais à peu près, 80 heures par semaine. Oh. La première année où j'étais dans l'entreprise, en 2000, on avait un contrat qui faisait qu'on notait nos heures supplémentaires. Et ils ont fait comme au Japon. Ils ont arrêté de nous payer les heures supplémentaires. On devait demander un cachet à notre manager comme quoi c'était bien des heures supplémentaires. Alors, je vous explique. La stratégie, notre manager nous disait « Oh, mais écoute, c'est pas grave, tu laisses tomber un peu ce dossier, tu reprends l'autre. » Puisque j'étais au management, donc on n'avait pas, on va dire, on avait une responsabilité, nos objectifs, mais on n'avait personne pour nous diriger. On devait diriger nous-mêmes notre travail. Et donc, on me disait « Ah, mais laisse un peu tomber ce dossier, prends celui-là, mais tu vas bien t'arranger et tout. » Et en final, je ne pouvais pas laisser tomber un dossier, puisque si je laissais tomber ce dossier, le surlendemain, j'avais quelqu'un au téléphone qui m'insultait dans toutes les langues, principalement en Amérique, en anglais, enfin bref, américain. Et donc, on se trouvait dans une situation, on gérait informatiquement le monde entier. Ce qui veut dire que nous, on allait travailler vers les 9h du matin. À midi, les États-Unis se réveillaient, ils terminaient à minuit. L'Australie commençait à 9h le soir et finissait à 8h du matin.
Oh.
Donc, en gros, on travaillait de 9h du matin à 8h le lendemain matin.
Ouf.
Si on était sur des projets qui concernaient des pays comme ça. Donc, je faisais à peu près 80 heures par semaine.
Ah, d'accord.
Donc, quand ça m'est arrivé, j'ai rien vu au film. D'autant que j'étais dans une entreprise où on avait accès sans arrêt avec notre carte. On pouvait même travailler de nuit.
Oui, c'est l'hyperdisponibilité, en fait.
Ah oui, oui. On pouvait travailler de nuit et en même temps, on pouvait travailler depuis la maison. Donc, j'ai dormi pas mal de nuits avec mon ordinateur dans le lit.
D'accord.
Donc voilà. Donc c'est vrai que tu arrives à un moment où tu es dans une culture. Et bon, on nous disait, notre employeur nous disait, écoutez, au salaire où on vous paye, camembert, quoi. Taisez-vous, je fais coin-coin avec les mains, là. Voilà, c'est tout. On n'avait rien à dire. On était des nantis. Or, un nanti ne va pas se plaindre.
D'accord.
Il ne dit rien. Donc ça aussi, ça a un double tranchant. Et c'est, je pense, ce qui se passe au Japon. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être la possibilité de gagner énormément leur vie. Et c'est vraiment un piège.
Ça me fait beaucoup penser au Luxembourg aussi.
Voilà.
Côté multinational, etc. Hyper disponibilité, rendement. Parce qu'ils ont des grandes entreprises, surtout financières, informatiques, etc. Ça me fait beaucoup penser à ça aussi.
Voilà. Et donc, on se trouve pris dans un espèce d'engrenage qui fait que plus rien n'existe en fond, tu vois. On est seulement pris au premier niveau par des choses qui sont superficielles, inutiles et autres. Et on ne se rend même pas compte parce qu'il y a le regard des autres, le regard de la famille. Ce qui m'a personnellement fait beaucoup souffrir, c'est que quand j'étais victime de ce burn-out, c'est ma famille.
Oui.
Ma famille, pas direct, mais enfin mes parents, mes frères, mes sœurs m'ont jugé comme étant une pauvre fille. qui n'est pas capable d'assumer un métier. Ah
bah, mais c'est toujours plus simple, de toute façon, comme ça.
Et ça, c'est dur à vivre. Mmh. C'est difficile de pouvoir se mettre à l'écart de tout ça.
Oui, donc... puis tu as la solitude qui s'installe, un espèce de huis clos. Oui. Tu es un peu sous cloche là-dedans.
C'est ça.
Et puis en plus, bien gagner sa vie, mais si tu commences à travailler 80 heures par semaine, je ne sais pas trop ce que tu fais de ton
poids. Ah bah, alors écoute, je vais dire quelque chose. Maintenant que je suis à la retraite et que je n'ai pas du tout ces revenus, loin de moi, cette idée, eh bien, je vis trois fois mieux avec, on va dire, cinq fois moins d'argent.
Ah ouais, ok.
Mais je vis trois fois mieux. Et quand je dis trois fois mieux, c'est large. Donc, je ne pense pas que l'argent... Ben oui, parce que quand tu travailles H24 comme ça, 14 heures, 15 heures, 16 heures par jour, eh bien, tu es obligé d'aller au restaurant, hein, parce que faire à manger, c'est compliqué. Il aurait fallu faire les courses. Les courses, tu n'as pas le temps. Hein. Bon, voilà. Ensuite de ça, dans ces grosses multinationales, il faut être sapé. Ah ben, ça coûte du pognon.
Ouais, c'est vrai.
Ensuite de ça, il y a la culture d'entreprise. Tu dois participer aux activités parce qu'ils te font ça. Hein, tu sais, les sorties, les trucs. En plus, on va tous ensemble pour bien serrer les coudes.
Ouais.
Et on fait la culture d'entreprise. Donc, tu vas faire du sport d'extrême pour te mettre à tes limites. Non, mais du rap jump. Tu n'as jamais fait ça dans des barrages. Tu descends avec une corde en rap jump, tu sais, machin. Pour te montrer tes limites, pour voir que t'es le meilleur des meilleurs. Ah, c'est vrai que je connais un rayon sur ce sujet.
Oh my God, horrible.
Oui. Ouais, voilà, voilà. C'est assez époustouflant. Donc, nous nous sommes arrêtés en Suisse, le pays par excellence. Voilà.
Eh ben.
Donc, c'est un des pays où le burn-out est le plus florissant. C'est le rythme aussi de travail le plus élevé en Europe. Et effectivement, les Suisses ne sont pas très contents de leur diagnostic, parce que les burn-out sont un cas sur deux, ils conduisent au licenciement, parce qu'en Suisse, il n'y a pas la protection. Hein. Par exemple, tu peux travailler depuis 30 ans ou 40 ans dans une entreprise, ou 10 ans ou 5 ans, au bout de un an, tu as droit à 3 mois de préavis. Point barre. Et sans raison.
Ok, d'accord.
Tu n'as pas de raison à dire. Donc, ils peuvent te licencier parce que
tu
n'as plus de jus, ça s'arrête. Okay.
C'est un peu abusif quand même.
Oui, donc il y a des pays effectivement où c'est assez pénible à vivre. Donc nous sommes arrêtés en Suisse et nous allons suivre notre tour du monde ensuite, après cette pause musicale.
Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être tendre? Allez. Je m'endors pour mon premier rêve. La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans. Je me suis trompée de fil, je voulais être avec les grands. Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans. Suis-je garçon ou fille, pourquoi personne ne me comprend? Et dès que sonne la récré, je me fais insulter. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je continue de grandir, aujourd'hui j'ai 9 ans. Qu'est-ce qu'on va m'offrir? Y aura combien de gens? Mais le soir de ma fête, en fait, j'avais pas de fête. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Ça y est, je suis en 6e, j'ai enfin 11 ans. Je rentre pas dans leur système, j'apprends trop facilement. Je m'ennuie dans tous les cours, on trace déjà mon parcours. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans. J'ai les yeux qui brillent, dois-je le dire à mes parents? On m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Enfin le lycée, j'ai bientôt 16 ans. J'aime bien l'embrasser, je me fous du regard des gens. Pourquoi elle m'a quitté alors que je l'aimais tant? Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ose pas rentrer chez moi, pourtant j'ai 18 ans. Je viens de rater mon bac, comment le dire à maman? Je n'irai pas à la fac et mon CV sera blanc. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante dans la rue, je fête mes 19 ans. Pour moi j'évolue, pourquoi on me rabaisse tout le temps? Pour tout le monde je suis foutu, je me demande à force si je me mens. Oh non, je voulais juste vivre mon rêve. Genre en soirée techno, c'est bon j'ai 20 ans. Je me drogue un peu trop, je profite de l'instant. Putain tout me dépasse, commencent les crises d'angoisse. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante ta marinière, je vais mieux j'ai 21 ans. À la fin des concerts, le public m'attend. Mais quand je rentre en taxi, où sont passés mes amis d'avant? J'ai dû faire un mauvais rêve. J'assume qui je suis, je viens d'avoir 23 ans. Je veux de l'amour dans mon pays, je veux qu'on me voie vraiment. J'embrasse une femme aux victoires, après c'est le cauchemar. Oh non, J'ai dû faire un mauvais rêve. Il s'attaque à mon physique, j'ai tout juste 24 ans. Je fais de la musique, y'a rien d'effrayant. La méchanceté est gratuite, mais les efforts seront payants. J'ai dû faire un mauvais rêve. La vie me met en tape du haut de mes 25 ans. Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans. Je serai pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris. Oh non. J'ai dû faire un mauvais rêve. Et puis ça continue, j'ai toujours 25 ans. Mon papy me quitte une nuit et laisse derrière lui un grand blanc. Je comprenais pas la vie, je vais devoir comprendre la mort maintenant. J'ai dû faire un mauvais rêve. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui j'ai 26 ans. J'ai le cœur parapluie, le corps rempli de sentiments. J'aurai un nouvel album, est-ce qu'il va toucher les gens? J'espère. Moi je veux juste vivre mon rêve. J'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai dû faire un mauvais rêve.
Auditeurs, j'espère comme Oshi un jour pouvoir dire l'épuisement, j'ai dû faire un mauvais rêve, et puis qu'on arrive à informer la population et que les gens soient plus à l'écoute de ce phénomène qui détruit des vies, qui détruit des familles, qui détruit des personnes, parce que c'est important. Alors nous faisons notre fameux tour du monde et nous nous sommes arrêtés en Europe, en Suisse, qui n'est pas des moindres pays touchés. Et on va faire une petite escale aux États-Unis. Ben oui, d'habitude, on dit qui est-ce qui est touché? Oh, les États-Unis. Non, pas vraiment, mais oui, eux quand même. Donc, les États-Unis sont extrêmement touchés par ce phénomène. 57% des travailleurs américains déclarent souffrir actuellement d'un épuisement professionnel. Donc là, l'enquête menée auprès de 2000 employés a révélé que le stress au travail touche de manière disproportionnée les femmes et les jeunes. Donc ça aussi, c'est important. En effet, 75% des femmes ont déclaré souffrir d'épuisement au travail contre 58% des hommes. Environ 2/3 des membres de la génération Z, 67%, et des milléniaux, 64%. Je rappelle que les milléniaux sont les personnes qui sont nées dans les années 2000, et Z, je ne sais plus, qui est la génération Z. Peut-être que les jeunes que nous avons dans le studio vont savoir quelle est la génération Z. Voilà.
C'est après 2000.
Ah, après voilà. 2000. Et les milléniaux, c'est 2000.
Ceux d'avant.
Ah, ceux d'avant. Ah ben, merci à ces jeunes services civiques qui sont près de nous dans le studio. Voilà, donc ça toucherait de plus en plus de jeunes, dont entre 20 et 30 ans. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Et donc, là, par rapport à ça, on trouve aux États-Unis, il se trouve que le pourcentage de travailleurs qui se disaient convaincus que leur employeur se soucie d'eux, ce qui est quand même un point important, que votre employeur se soucie de vous. Enfin,
ah ben oui,
oui
quand
là,
même.
Je suis peut-être dans le rêve à Oshi, là. Hein.
Ah, je pense qu'il faut quand même pas faire une généralité.
Oui,
il y a quand même, voilà, il y a quand même des employeurs qui font attention.
Non, mais
effectivement, quand on est dans une entreprise où c'est le rendement, etc., etc., ben, les gens, c'est pas leur priorité.
Non.
Il n'y a plus d'humanité, en fait. On n'humanise plus la personne avec qui on travaille. C'est un outil.
Voilà, oui.
Je pense qu'heureusement, c'est pas partout pareil.
Non, puis il y en a quand même qui réalisent que ici la branche sur laquelle ils sont assises.
Tout à fait.
D'accord. Mm. Voilà. Donc, par ce tour du monde, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a un côté qui n'est plus un côté que l'individu se sente coupable d'avoir été victime,
oui.
Mais qu'on en vienne à l'humanité qui est touchée, et c'est un problème d'humain.
Tout à fait.
Je ne sais pas si vous voyez la nuance dans ce que je veux vous faire passer comme message.
Ben si, on voit bien.
C'est une question de défendre quand même l'humanité, les humains.
Ben oui.
Les humains doivent se positionner par rapport à cette machine qui nous compresse, qui est quand même le consumérisme, parce que c'est quand même ça. Il faut de l'argent pour dépenser, il faut acheter pour faire fonctionner l'économie. d'accord, et l'humain là-dedans, il est ouf.
Je pense qu'il y a quand même une espèce de culture du travail à la base. On dit qu'en fait, il faut souffrir. Tu vois, le travail, ça se fait dans la souffrance. Bah là, voilà, le travail, c'est la santé. Enfin, je veux dire, on a quand même des espèces d'idées bien ancrées là-dessus qui nous viennent des années, comme tu l'as dit, peut-être 70, 60, peut-être même avant. Et on n'a pas réussi à s'en détacher. En fait, tout ça, ça a continué au bénéfice, pour moi personnellement, de ceux qui sont hauts et qui amassent un max de pognon par rapport à tous ces gens qui travaillent de fou pour eux. Et voilà, c'est une idée ancrée.
Oui, et je dirais, on va plus loin, parce que travail en latin, c'est tripadium, torture.
Ben voilà, c'est
donc ça. Ça fait longtemps. Hein,
voilà, je pense que oui, je dis ça, mais en fait, quand on pense à l'histoire du monde, je pense que ouais. Voilà, par exemple en Égypte, les esclaves, etc. Je pense qu'à mon avis, on a commencé comme ça. Quoi.
C'est loin. Donc, aux États-Unis, un tiers, 33% des employés ont déclaré que l'augmentation des congés est le moyen numéro un pour leur employeur de lutter contre l'épuisement professionnel. Ça, je rejoins Albert Mukaiber qui dit. On ne mange pas 3 jours dans le mois et on ne fait pas, on ne reste pas à jeun le reste du mois.
Mais ouais.
On mange tous les jours un petit peu et on se repose tous les jours un petit peu. Donc les congés doivent être la fameuse méthode sandwich.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Après ça faut l'accepter parce que souvent, enfin, il y a quand même des gens qui ont des congés qui ne prennent pas quoi.
Ah ben typiquement au Japon. Là, je te trouve très pertinente, Lia.
Je pense à des cas personnels aussi.
Ah bon, bah
tu
voilà.
Il y a des choses qui me viennent comme ça.
Ouais, ouais. Alors, aux États-Unis, ils ont donc augmenté les congés pour lutter contre l'épuisement professionnel, suivi de la possibilité de travailler à domicile, 27%, ben ça, c'est depuis le Covid. Hein. Des programmes d'auto-soins, 17%, des soins de santé mentale, 10%, des programmes d'aide aux employés, 8%, des services de soutien familial, 3%. Des visites de télésanté 1% et de la technologie portable pour aider à surveiller la santé 1%. Alors j'aimerais rebondir en ayant un côté comique parce qu'on va terminer après et il nous reste plus beaucoup de temps avec un pays dont on ne se doute pas qu'il est aussi dans l'épuisement, avec une petite audio qui est, alors je vous le dis en 2 minutes parce que ça vaut simplement son pesant d'or et ça fait bien rire. Quant aux outils portables, technologiques pour la santé, on ne recule devant rien, mais rien. On y va.
Ce matin, vous nous prouvez, Maxime, que nos portables, nos téléphones ne sont pas que des fils à la patte. Ils sont aussi capables de prendre soin de nous, notamment quand on risque le burn-out.
Oui, le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est ce qui arrive quand un salarié se retrouve submergé de boulot, qu'il ne fait plus que travailler et qu'il bascule petit à petit dans la dépression. Eh bien, des chercheurs allemands ont créé une application pour smartphone qui permet de prévenir le burn-out. C'est en tout cas ce que disent ces chercheurs. En fait, notre téléphone va tout simplement guetter l'apparition de plusieurs signes synonymes d'épuisement, des signes plutôt inattendus.
Mais alors, quels sont ces signaux d'alarme ?
Eh bien, d'abord, le téléphone va analyser tout ce que l'on écrit, SMS, mail, etc. Et il va compter le nombre de fautes de frappe que l'on fait. Plus on est fatigué, plus on fait de fautes. Mmh. Au-delà d'un certain seuil, hop, première alerte. Ensuite, c'est à notre voix que le smartphone va s'intéresser. S'il détecte que notre timbre de voix a changé, que notre débit ralentit, deuxième alerte. Et puis une dernière chose, toute bête, le sommeil. Notre téléphone sait à peu près combien de temps on dort. Il repère les insomniaques qui triturent le clavier en pleine nuit. C'est un autre signe qui peut faire penser au burn-out.
Mais une fois que le téléphone pense que l'on est épuisé, Maxime, qu'est-ce qui se passe ? Alors il fait quoi ?
Eh ben d'abord, il vous le dit. Il va vous demander de ralentir la cadence. Il va vous donner aussi quelques conseils pour améliorer votre sommeil, votre alimentation. Mais toutes les données qu'il a collectées, et là ça devient peut-être un peu plus dangereux, il peut aussi les envoyer à votre patron, à votre DRH. C'est en tout cas l'idée des inventeurs de cette application, donner à la direction d'une entreprise, sur la base du volontariat, une idée précise de l'état de fatigue des salariés.
Bon, c'est pas débordant de chaleur humaine, mais visiblement ça peut rendre service quand même. Elle s'appelle comment cette application ?
Alors elle s'appelle Kelaa, K-E-L-2-A. Kelaa, c'est le nom d'une petite île des Maldives.
Ah, c'est pas mal, c'est prometteur.
On peut
déjà la télécharger, c'est...
Oui, on peut déjà la télécharger.
D'accord. Kelaa, K-E-L-2-A. L2A. L'innovation, Maxime Switek. Merci, Maxime.
Oui, alors vous voyez, chères auditrices et auditeurs, on ne recule devant aucune folie. Hein. Donc, on vous propose une application qui pourra être transmise à votre employeur. Hein. Ah bah alors, soyons fous.
C'est vrai qu'on se sent vachement mieux.
Dis putain, il y a encore... Pardon, excusez-moi, je ne dois pas dire des mots. Fais bip, s'il te plaît. Bip,
bip.
Voilà. On doit même pas avoir le droit d'être humain, sinon c'est rapporté au monsieur, hein. Attention, le monsieur d'en haut va nous taper sur les doigts. Donc on va terminer par le dernier pays qui souffre de burn-out, et je dis là quelque chose qui va... Pays, on va pas dire pays, le
continent.
Continent, voilà. Le dernier de notre tour du monde, c'est l'Afrique.
Ouais.
Et oui, bon. Apparemment l'Afrique est déjà rentrée dans quelque chose d'assez violent.
Bonsoir à tous. Le saviez-vous? 57,5% de la population au Sénégal souffre de burn-out, selon les chiffres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Appelé aussi épuisement professionnel, le burn-out est un trouble psychique lié à une forte dépendance au travail qui favorise un stress chronique. Mais comment savoir qu'une personne souffre de burn-out? Face à une fatigue permanente, des insomnies, des migraines, de l'anxiété sous toutes ses formes et même un isolement au monde extérieur sont autant d'éléments qui permettent de montrer qu'une personne souffre d'épuisement professionnel. Plusieurs facteurs tels qu'une surcharge de tâches au quotidien, un manque d'autonomie au travail, un trop-plein de responsabilités mal définies, l'échec de résultats au travail sont à l'origine du burn-out. Il faut aussi savoir que le burn-out touche les personnes perfectionnistes et ambitieuses, toujours à la quête du travail bien fait. Ce trouble affecte en général les travailleurs qui évoluent dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du travail social, qui sont assez souvent confrontés à une charge émotionnelle constante dans leurs tâches. Mais comme toute maladie, évidemment, il existe des moyens de prévention. Pour tout travailleur, il faut savoir s'organiser en accomplissant ses tâches par ordre de priorité. Cela vous évitera d'être surchargé le moins possible. Fixez-vous des objectifs clairs et précis à la hauteur de votre engagement professionnel. Sachez identifier les situations et les événements qui vous plongent dans un état de stress. Surtout, ayez le courage de dire non face à une mission qui risque de vous surcharger. Soyez à l'écoute de votre corps en prenant des pauses si nécessaire. Mieux, parlez-en à votre entourage. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles découvertes et surtout, restez connectés sur les différentes plateformes de votre site Elena, les Nouvelles d'Afrique.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, donc ce tour du monde, l'IA, il est quand même instructif.
Bah oui, ça casse les stéréotypes.
Plutôt.
Voilà, et puis nous, c'est vrai qu'on voit peut-être certains pays à travers, entre guillemets, le tourisme, enfin si on n'est pas,
oui,
si on,
voilà,
si on n'est pas très intéressé par ce qui se passe ailleurs.
C'est ça, oui.
Mais du coup, oui, ça casse un petit peu les codes, quoi.
Ça porte à réflexion, donc en quelque sorte, et là, je reviens avec mon clou, mon marteau, hein, je retape, toc, 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 voilà. C'est bien un phénomène de société.
Mais oui. Et c'est un phénomène mondial, en fait.
Voilà,
ça, en plus.
Mondial de société.
Ouais.
Et là, je n'ai pas été dans tous les pays. Non, j'ai fait une petite promenade. Question qu'on fasse un peu le tour, comme tu dis, des stéréotypes qui nous sont inculqués. Mmh. Au Japon, oh, ils sont zen. En Italie, oh, c'est la Dolce Vita. Mmh. En Suisse, oh, c'est cool, ils ne sont pas rapides. Non, mais pour dire, et en Afrique, oh, bah, c'est bon, hein, on est tranquille, on est au soleil, voilà. Mmh. Et donc, en plus, en Afrique, ils accumulent, parce qu'en Afrique, ils ont ce problème qui intervient. 57% de la population sénégalaise, c'est énorme. Mais en plus, ils ont des activités qui sont dangereuses, où ils font travailler des enfants, ou enfin bref.
Oui, mais pas qu'en Afrique.
J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Et donc, ils se confrontent à tous les, je dirais, toutes les mauvais penchant de l'Occident qui leur arrive dessus.
Les polluants et tout.
Et oui, comme on les sert de poubelles, hein, nos vieilles bagnoles, elles vont là-bas. Mmh. Elles sont plus bonnes pour nous, mais elles sont bonnes pour eux.
Même ce qu'ils fabriquent, je pense en Asie notamment, mais pas que, hein, en Inde aussi, ce qu'ils fabriquent pour nous occidentaux, eux, ça les tue. Hein.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, ça, c'est important de voir que c'est une maladie de société. Alors, je rappelle les fondements de cette maladie de société, la compétition, donc la compétition avec les collègues. Hein. Je dois être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Je dois être la prochaine médaille qu'on donnera au prochain repas d'entreprise. On me fera lever, on dira santé à la meilleure travailleuse. Oui, bon, d'accord, mais elle s'écroulera en même temps, hein. On va dire ça un peu comme ça. La concurrence exacerbée, eh bien, mon voisin me fait mettre la tête sous l'eau pour pouvoir remonter plus vite que moi, ou vice-versa, ou j'en sais rien comment.
Mon Dieu.
Hein, oui, voilà. Le culte de l'urgence.
Vous devez me faire pour hier ce que...
Je vous ai demandé pour demain.
Voilà.
Bah oui. Mmh. Bah oui. Hein. Enfin, quand même, Lia. Mmh. Je t'avais demandé ça pour demain, mais pourquoi tu ne l'as pas fait hier? Non, mais franchement, on est où, là?
C'est un peu ça.
Mmh. Hein, bon. Donc, je ne vous dis pas la pression. Et puis, oui.
Je pense un peu à ce côté aussi hyper remplaçable. Tu vois, oui. Si on n'est pas à la hauteur, bah, ça va vite de trouver quelqu'un d'autre qui pourra faire finalement ce qu'on nous avait demandé de faire et qui le fera avec plaisir, en plus, entre guillemets, puisqu'il voudra relever le challenge et puis il aura un petit peu un côté d'égo, j'en sais rien, de se dire, je vais pouvoir relever le défi, quoi.
C'est repenser l'idée du travail, repenser complètement la culture, la racine même de cette culture, pour repenser, parce qu'il y a de quoi occuper tout le monde. Des fois, je faisais rire les gens, il y a 20 ans en arrière, après mon burn-out, en disant, mais on donnerait du travail à 50% à tout le monde, il n'y aurait plus de chômage.
Mais oui.
Oui, mais bon, ça ferait moins de revenus. Oui, peut-être, mais n'empêche qu'il n'y aurait plus de chômeurs et puis la planète entière serait tranquille. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on fait travailler des gens à 200% et d'autres sont au chômage? Ça n'a pas de sens. Ou des jeunes.
Plus de chômeurs, plus d'indemnités chômage. Non. Plus d'indemnités de chômage, plus de revenus possibles pour les travailleurs.
C'est ça. Et puis, les retraites, pourquoi les mettre plus loin? Pourquoi pas faire travailler les gens? Enfin bref, il y a des manques de bon sens. Mmh. Je ne sais pas si l'épuisement, étant la racine, à mon sens, du mal mondial actuel, ne pousse pas à manquer de bon sens.
Parce qu'en fait, ça tourne complètement sur la tête. De toute façon, hein, la mondialisation, c'est tout à fait synonyme de ça, en fait.
C'est un peu une manière de dire... On ne fait pas les choses correctement, mais bon, c'est comme ça. Il faut les faire mal.
C'est le pognon, en fait. C'est tout. Oui, mais c'est l'argent qui est engrangé par ce qu'on ne verra jamais, nous, en fait.
Oui, mais alors j'allais te dire... Oui. Alors là, tu as dit une belle phrase. L'argent qui est engrangé par ce qu'on ne verra jamais. Donc, le pognon, pas pour nous. Hein.
Eh ben non, pas pour nous.
Ah bon, d'accord, ok. En fait,
c'est eux qui tiennent les rênes au-dessus. Donc, c'est à eux que ça revient, tout ça.
Oui, un petit
peu. Je ne sais pas, je suis un peu complotiste aujourd'hui.
Oui, non, tu as tout à fait raison. Maintenant, je tiens quand même à ajouter un petit détail. Quand il y a une pyramide, le haut de la pyramide repose sur quoi?
Sur le bas.
Ah. Ah mais non, mais c'est...
Mais on est tellement...
Oui, mais imagine que le bas veuille se casser. Il reste quoi en haut?
Mais oui, mais ça n'arrive pas à ça encore.
Pas encore.
Un jour,
mais je pense quand même que la prise de conscience de l'épuisement mondial dans lequel on est...
Ça serait bien.
Ce serait une bonne chose. Ouais. Donc on continue l'association Ralentir pour vivre, de faire de l'information pour être le plus, on va dire, cohérent. Le plus correct possible. On vous retrouvera dans 15 jours. En attendant, on vous retrouve ce vendredi à 19h30 à la fac de droit d'Épinal pour la fresque du burn-out, où on va vous dire exactement les fondements de ce problème de stress lié.
Ah ouais. Venez nombreux. Voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver les infos, Catherine?
Alors, on peut retrouver les infos sur ralentirpourvivre.org, sur la page Facebook. Vous avez un événement par rapport à ça.
OK.
Donc, la Facebook Ralentir pour vivre à Beau. Et puis, en même temps, sur le site, je suis en train de prendre un temps d'arrêt parce que je n'ai pas encore mis la fac de droit. Il y a eu pas mal de publicité qui a été faite. Alors, je ne sais pas. On a envoyé pas mal de mails. Il y a l'air d'avoir des gens intéressés. On en avait parlé aux associations, en fait. Il y a beaucoup de personnes intéressées. Et puis, je dis... Okay. Voilà.
C'est en entrée libre ?
C'est en entrée totalement libre, oui. Ce qu'on cherche dans l'association Ralentir pour vivre, je veux juste rajouter ça parce que j'ai encore pensé, une des adhérentes m'y a fait penser, il faut que je le mentionne, c'est que plus nous serons d'adhérents, plus nous aurons de poids dans ce que nous disons. Voilà. C'est important. Et l'adhésion est à minimum 1 euro pour ne mettre personne en mauvaise partie, puisque quelquefois, quand on est en épuisement, l'aspect financier est très important. Oui. Voilà. Eh bien, merci pour avoir fait le tour du monde avec moi, Lia.
Merci, Catherine, de nous avoir fait voyager, même si, bon, c'est pas le voyage auquel on pense de but en blanc, mais c'est très, très instructif.
C'est comme ça. À tout bientôt, chers auditrices et auditeurs.